De visionner le film 100% orientation sur l'électronique, la cybersécurité et j'oublie électronique, cybersécurité, oui. C'est ça. Et donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous et vous allez vous présenter
Mathieu Léna, le proviseur du lycée Joséphine Baker,
Guillaume Toury, le directeur délégué aux formations du lycée Joséphine Baker.
Et donc, du coup, moi, j'aimerais bien que vous nous parliez de la genèse de ce dispositif et pourquoi un BTS-Ciel ou un bac pro-Ciel au sein de l'établissement Joséphine Baker. D'où c'est venu, comment on le met en place, on veut tout savoir.
Alors, donc, le lycée Joséphine Baker est un lycée très jeune, hein, il a 3 ans, c'est la 3e année d'ouverture.
Et donc, situé à ?
À Anche, en Eure-et-Loire, près de. À la frontière des Yvelines, avec les Yvelines, donc dans l'Académie d'Orléans-Tours. Et quand ce lycée a été conçu, la carte des formations a été adaptée en fonction des besoins des entreprises, et notamment du territoire. Et donc c'est pour ça que le bac pro ciel, cybersécurité informatique et réseau électronique, a été choisi pour être une des formations du lycée. Et pour avoir une poursuite d'études logique, le BTS Ciel option B, donc électronique et réseau, a été aussi choisi. En sachant que le BTS Ciel option B, c'est un BTS qui est assez rare et c'est le seul lycée dans le département qui offre ce BTS option B. Il existe aussi l'option A, qui est plus informatique et réseau, qu'on pourra trouver à Dreux ou à Nogent-le-Rotrou en apprentissage. Donc c'est une particularité. On est assez fiers d'être le seul lycée du département à avoir ce BTS. Les jeunes aiment quand ils nous parlent, ce qu'ils veulent faire, c'est de l'informatique. Ça a été dit dans le film. Hein, on veut faire de l'informatique. Et il nous semblait important de faire découvrir justement notre particularité où on est quand même assez tourné avec le BTS sur l'électronique. Et quoi de mieux que de montrer nos élèves en train de travailler, les entreprises, ce qu'on peut y faire. Et c'est pour ça que voilà, on a voulu promouvoir cette filière à travers ce film 100% orientation.
Si je peux me permettre, surtout qu'on a vu au travers du film qu'on a pas mal d'entreprises qui sont dédiées à l'électronique sur le bassin. Là, on a choisi quelques entreprises. C'est qu'un échantillon de ce qui existe dans le domaine de l'électronique. Après, si on se tourne vers l'Île-de-France, puisque le lycée a la chance d'être frontalier avec les Yvelines, il faut savoir que sur l'Île-de-France, dans les Yvelines, il y a beaucoup d'entreprises dédiées donc, au domaine de l'électronique.
Et justement, c'est ça. Le film, moi, il m'a permis de comprendre la différence entre informatique et électronique, parce qu'effectivement, je sais pas toi, mais moi, j'avais pas capté que c'était vraiment deux métiers distincts ou l'électronique.
Alors c'est intimement lié, je crois.
Dans l'électronique, faut savoir qu'il y a différents métiers dans l'électronique. Ouais. Déjà, c'est ouais. Ah bah oui.
Je trouve intéressant sur notre territoire, c'est que en même temps, vous upgradez donc bac pro ciel, BTS. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça donne des bagages pour continuer. Et donc c'est une voie qui n'est pas générale. Donc ça peut effrayer certains parce que c'est la sécurité et c'est surtout les parents que ça effraie. Et du coup, on peut vraiment continuer à faire du bac plus 5 et voire peut-être encore plus après. Donc un, nos jeunes de territoire. Et moi, je voulais rajouter quelque chose pour un peu démocratiser et je rebondis sur informatique ou électronique parce que moi, avant de voir le film informatique, électronique, c'est un peu la même chose. C'est que, en fin de compte, l'électronique, on le trouve partout. Et j'avais fait des petites recherches. On est entouré de ça. Téléphone, voitures, les hôpitaux, les avions, les réseaux, la cybersécurité. On est entouré et on vit avec ça autour de nous. Donc ça, c'est quand même, voilà, c'est dans notre quotidien. C'est pas vraiment destiné à une élite d'ingénieurs, etc. Et effectivement, il y a plusieurs métiers à l'intérieur même de cette filière.
Et pourquoi c'était important pour vous de créer justement ce film autour de cette filière-là ?
Justement parce qu'on avait un peu de mal à recruter, notamment sur notre BTS. Autant sur le bac pro, on recrute sans aucun problème et c'est vraiment un bac pro qui est très très demandé. Mais c'est le côté informatique surtout qui attire nos jeunes, informatique, cybersécurité. Et le BTS électronique attirait moins, donc on ne le remplissait pas. Et donc justement, c'est important pour nous de promouvoir cette filière et de montrer justement toutes les possibilités d'embauche ensuite et d'emploi possible avec le lien avec les entreprises.
C'est surtout par méconnaissance, je pense, du domaine par les jeunes. Qu'est-ce que l'électronique ? On pense que c'est quelque chose de très obscur pour eux. Et donc, c'est pour ça que le but, c'est de leur montrer ce qu'est l'industrie de l'électronique.
Et en même temps, nos jeunes qui sont sur le territoire, vous êtes les premiers à avoir mis ce dispositif en place. Donc évidemment, ça, ils ne connaissent pas. Les entreprises, ils les connaissent encore moins. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie, en tout cas, l'industrie, hop, ça fait peur. Et puis, moi, je voulais juste dire, avoir un peu plus d'infos sur la carte de formation, parce qu'on a tous accès à des statistiques. La filière électronique en France, ça représente près de 80 000 emplois directs selon l'usine nouvelle. Donc, c'est pas très ancien comme statistique. Donc, ça ne va faire que croître à l'approvisionnage de ce film. Et donc, du coup, effectivement, on sait qu'il y a un besoin. Qui s'occupe d'identifier le besoin ? Donc, c'est ce dispositif carte de formation. Qui décide de ça ?
C'est collectif. Hein. À la fois, c'est un travail avec la région, avec le rectorat, bien sûr, de l'Académie d'Orientour, qui voit les besoins des entreprises, en lien avec les entreprises, hein, qui voit les besoins pour implanter des formations qui correspondent aux attentes. Hein. Et ce qui est très important, là, tout à l'heure, avant la projection, il y a des entreprises qui me disaient comment on pourrait faire pour passer des annonces parce qu'on veut recruter et vos étudiants qui sortent, là, qui viennent d'obtenir le BTS, les résultats du BTS, c'était hier. Voilà, est-ce qu'il y en a pas qui cherchent un travail parce qu'ils ont besoin, de personnel. Et donc, voilà, on sait que nos élèves, une fois qu'ils auront fait leur cursus, ils sont sûrs de trouver un emploi. Et il y a des fortes demandes.
Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que vous faites le lien avec les entreprises. Vous êtes en relation directe avec les entreprises, autant pour l'après-étude, mais pour leur stage aussi, de ce qu'on a compris dans le film.
Oui, et c'est ça aussi qui permet aux élèves, quand ils partent en stage, de découvrir le côté électronique. Parce que souvent, ils ont, effectivement, comme le disait M. Toury, un peu des a priori ou une image de l'informatique. Et quand ils vont en entreprise sur le terrain, ils découvrent cet aspect électronique qui leur permet de se dire « Ah oui, peut-être que ça va m'intéresser et je vais continuer en BTS électronique plutôt qu'en BTS côté informatique. » C'est important.
Et donc, vous disiez quelque chose d'important parce que j'ai cherché des statistiques et comme c'est vraiment un nouveau dispositif, eh ben, y a pas de statistiques. Aujourd'hui, vous dites que vous avez eu des résultats hier sur la première promo.
La deuxième promotion de BTS.
Les sources sont pas bonnes. Et alors, ça donne quoi ?
On est très, très heureux des résultats de nos étudiants. Il y a deux ans, on a eu 100% de réussite. Cette année, on est à 90% de réussite, ce qui sont des chiffres très, très, très bons par rapport à ce diplôme. Donc, on est très fiers et je remercie les enseignants qui les accompagnent pour vers cette réussite.
Donc, la filière professionnelle, et on peut très bien réussir sa vie, avoir du travail sur le territoire, continuer les études ou pas. Donc, la Gen Z, renseignez-vous.
Ouais, ça va.
Merci.
Alors messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Éric Boutry, je suis réalisateur. J'ai une société de production depuis 2010 qui fait de l'image pour l'entreprise. Et avant, j'ai fait une quinzaine d'années pour les chaînes de télévision, France Télévisions, TF1. Et avant ça, j'ai fait un peu de long métrage en tant qu'assistant réalisateur où j'ai commencé ma carrière comme ça. Et j'habite à côté de Chartres, dans un petit hameau qui s'appelle Chuisnes, mais qu'on prononce Chuine. Oui, je pense que c'est chelou.
Là, on va pas pouvoir vous aider. Non. Moi, je ne connais pas, ce petit hameau.
Non. C'est bien, il y a 5 maisons. Alors, c'est pas Chune exactement,
c'est vraiment
un hameau qui est à l'extérieur de Chune. C'est 5 maisons avec vue sur les champs.
Donc ravi et puis impatiente de savoir un petit peu pourquoi on est réunis là ce soir. Mais avant, on va écouter Marc.
Oui, bonjour, moi c'est Marc Lourdel, je suis professeur de chaudronnerie et je suis également porteur de projets, notamment sur les projets 100% orientation que j'accompagne déjà depuis plusieurs années. On en est aujourd'hui à notre cinquième 100% orientation avec Eric.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer 100% orientation ?
C'est quoi ?
Alors, le projet 100% orientation, c'est un projet qui est porté par la région Centre-Val de Loire par le biais depuis une loi qui indique que les métiers doivent être l'information des métiers sont donnés par la région. Et en fait, la région finance notamment en partie des projets comme le 100% orientation. Il faut juste répondre à un cahier des charges. Il faut que les métiers soient représentés donc dans la région Centre-Val de Loire, que ces métiers soient des métiers qui recrutent. Et qu'il y en a dans l'établissement, c'est-à-dire qu'on voit par rapport à ça. Et le lycée de Han, Joséphine Becker, répondait notamment ce cahier des charges, notamment par le biais d'une filière qu'on peut parfois avoir du mal à recruter, ou alors qu'il y a des idées reçues sur ces filières. Voilà. Et à chaque fois, sur les 100% orientation, c'est ça, c'est tordre le cou aux préjugés, aux métiers d'hommes, aux métiers de femmes, de favoriser aussi, de montrer aussi ce qui se passe dans l'établissement scolaire, un peu comme du voyeurisme, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans les lycées, et de montrer aussi ce qui se passe dans les entreprises. Et avec ce projet 100%, les entreprises ouvrent les portes. C'est vraiment du gagnant-gagnant pour les établissements scolaires, pour les entreprises et également pour les familles. Parce que la plupart des familles, en fait, ils veulent que leurs enfants, leurs projets aille dans les métiers qui recrutent, et parfois on ne sait pas qu'il y a des métiers comme ça où ça recrute à la sortie du village ou à la sortie de la ville, et ça permet aussi d'ouvrir les portes. Et que voilà.
Donc 100% orientation, donc c'est d'utilité publique, oui. Et donc très orienté sur l'employabilité, si j'ai bien compris, et donc tourné sur des métiers dits en tension ou alors des métiers qui sont fortement représentés sur le territoire. Est-ce que j'ai bien compris ?
Oui, et puis il y a la notion de professionnel aussi. Il y a cette notion de, à un moment, les jeunes vont quitter la filière générale. Et ça, quitter la filière générale pour des parents et pour des jeunes, c'est encore synonyme d'un échec. Et c'est une grande dimension que je trouve importante parce que ça contribue à dire aux gens: faites pas cette erreur. Ne considérez pas que parce que vous quittez la filière générale, vous allez avoir une carrière qui sera pas à la hauteur de ce que vos parents pouvaient attendre. Au contraire, aujourd'hui, la filière professionnelle est extraordinaire. Elle amène à plein de métiers qui sont valorisants, qui donnent du sens, qui sont rémunérés. Et en sortant de la formation, qu'on s'arrête au bac, qu'on fasse un BTS ou qu'on continue, jusqu'à des écoles de prépa et d'ingénieurs, parce qu'on peut monter jusque-là, on se révèle, on a un métier qui a du sens, on a une vie agréable, professionnelle, et on travaille, il ne faut pas se leurrer, hein, on travaille 43 ans dans notre vie à peu près.
Vous devenez désagréable.
Et voilà, donc autant se dire que peut-être prenons un peu de plaisir, attendons pas samedi matin et ne profitons pas que de 2 jours par semaine.
Donc, mais c'est ce dispositif qui est très séduisant, et vous allez nous dire où est-ce qu'on peut retrouver les films et les thèmes des films précédents, parce que ce soir c'est l'avant-première du film co-construit, on va dire comme ça, avec le lycée Joséphine Becker, qui coche toutes les cases du cahier des charges, donc on a hâte. Mais effectivement, les métiers professionnels, ou en tout cas la formule d'apprentissage, elle est mal valorisée, mais c'est notre génération qui induit ça, parce que nous, on a été éduqués, il fallait un bac plus 5, il fallait être soit médecin, ingénieur pour réussir sa vie. Et tout à l'heure, Marc disait à juste titre que le premier film, c'était sur la chaudronnerie. Mmh. Et effectivement, c'est un métier qui est incroyable, et on en a besoin partout.
Et,
quoi.
Et moi, premier spectateur de ce film, puisque je ne connaissais absolument rien sur la chaudronnerie, j'ai découvert un univers extraordinaire avec plein de métiers, avec des débouchés assez fascinants. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses qui allaient loin, et puis on pouvait avoir des rémunérations importantes. Parce que maintenant, quelque part, dans notre société, la rémunération fait notre niveau social. Vous allez me dire que ça marche.
C'est une motivation aussi de la Gen Z, quand même.
Aussi. Et de la même façon, en logistique, on a appris plein de choses sur la logistique. En fait, ces films, ils ont en commun le fait que c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, des outils. Et c'est des outils d'information. De plus en plus, les jeunes doivent prendre des décisions. Et ils les prennent de plus en plus jeunes. C'est très difficile de prendre une décision quand on n'a pas d'informations sur le sujet. Et là, c'est un outil qui permet de se dire, OK, c'est pas pour tout le monde, l'électronique, la cybersécurité, les réseaux, c'est pas pour tout le monde. Mais au moins, j'ai regardé, peut-être que ça m'intéresse et peut-être que je vais aller un peu plus loin. Au moins, je suis informé pour prendre une décision.
Moi, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps, je crois que c'était la semaine dernière où j'avais un échange, où justement, en fait, la complexité, c'est que il y a tellement de métiers à découvrir qu'on ne les connaît pas. Et du fait qu'on ne connaisse pas ces métiers-là, on ne s'y intéresse pas. Alors qu'ils sont hyper intéressants. Enfin voilà, chaque métier a ses qualités et ses défauts. Tout dépend de ce qu'on attend d'un job, quoi. Et je trouve ça vachement bien, ces initiatives, parce que justement, comme vous l'expliquez, ça nous permet
Qui va s'intéresser à l'usinage ? Enfin, je ne veux pas être méchant, mais qui va s'intéresser à l'usinage ? Sur le papier. Alors que quand on s'en approche et qu'on voit les disciplines, c'est formidable, c'est de l'horlogerie, c'est génial. Ouais.
C'est donner l'envie d'avoir envie à des jeunes de créer cette appétence, de leur donner des étoiles dans les yeux par rapport à ces métiers qui sont parfois pas connus. Et je pense aussi que c'est des outils aussi, parce que tout à l'heure je parlais de la loi par rapport à l'information sur les métiers, mais il y a aussi la loi sur l'orientation. Et maintenant, la loi sur l'orientation oblige aussi, à partir du collège, dès la quatrième, de travailler l'orientation. Et c'est des outils formidables pour ces professeurs. Je pense notamment à ces professeurs principaux qui doivent accompagner des jeunes de quatrième, de troisième également, parce qu'en fait, par rapport à la temporalité des films, il peut y avoir un petit formulaire avec. Qu'est-ce que c'est que les métiers de la chaudronnerie ou de la logistique ? Ça peut être fait en amont ou en aval. Et avoir, par rapport à un questionnaire, et ben justement, casser aussi ces idées reçues par rapport à ces métiers, montrer que ces métiers, il y en a partout autour de nous, que ça embauche, qu'ils peinent à recruter et qu'en fin de compte, on arrive aujourd'hui, je pense notamment à l'industrie, où en fin de compte, on a énormément d'entreprises qui recrutent et on peine à recruter, quoi. Et ça, ces outils servent aussi à ça.
Et des entreprises qui recrutent et qui sont sur notre territoire.
Oui,
et souvent, aujourd'hui, les jeunes se demandent s'ils doivent s'expatrier. Ils n'ont pas forcément l'envie, les moyens. C'est comme ça. Alors qu'on a vraiment des pépites sur notre territoire. Et vraiment, ce genre de dispositif, à la fois pour les jeunes, à la fois pour les parents rassurants, et avoir les entreprises. Donc, en fin de compte, les trois piliers sont...
C'est ça. Et sur la forme, parce qu'en fait, c'est vrai que tous ces... On soit jeune, mais il n'y a pas que les moins jeunes, mais aussi la reconversion professionnelle. Et en fait, tous ces gens consomment de la vidéo, consomment de l'image au quotidien. Et en fin de compte, montrer avec l'image, justement, dans les écoles... il y a des métiers qui recrutent et il y a du travail et parfois ça paye pas trop mal, et ben voilà.
Et écouter aussi les podcasts, parce que c'est vraiment l'outil, c'est un
vecteur formidable.
C'est très important.
Moi, j'adore écouter les podcasts dans la voiture.
Quand on fait du vélo, ça, c'est formidable.
J'écoute constamment vos podcasts et j'ai appris énormément de choses au fur et à mesure de ces dernières années. Vous en avez fait. J'en dois en être à l'épisode 30.
En tout cas, merci Sandrine et merci Mélissa pour ce que vous faites, parce que vraiment, vous
n'êtes pas fini.
Il y en a 50.
Moi, je suis à 35. Toi, t'en es où, combien, toi?
Ah, moi, je viens de commencer, j'en suis au dixième.
Tu rougis, heureusement qu'il n'y a pas de caméra. C'est bon.
Le jeu est pour vraiment vérifier si vous avez écouté les podcasts. On a fait un premier épisode. Et le premier épisode, vous découvrez qui nous sommes, parce qu'on n'a pas toujours été podcasteuse. C'est ça?
Bien,
ouais. J'arrive à le dire au départ, j'arrivais pas à dire. Hein, génération X.
C'est dur à dire en vrai.
Et vous étiez dans quoi comme formation? Quel métier?
C'est le piège.
Ah.
Donc on se revoit dans 5 minutes?
Oui. Bon, alors, on peut faire une pause?
On va juste. Oui.
Non, ce que je voulais juste ajouter un truc qui était important, je trouve, c'est qu'il y a une espèce de. Enfin, moi je trouve, il y a une espèce de magie là-dedans parce que.
Dans nos podcasts?
Dans vos podcasts, et puis particulièrement cet épisode-là, qui va vraiment être bien, celui-là. C'est qu'en fait, tout ça, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui débutent un truc, ils trouvent un sens à ce qu'ils font. Rappelez-vous celui qui dit « Moi, j'étais une buse en maths en troisième. »
J'adore.
Il dit, j'étais une puce en maths, puis maintenant, ça va. Pourquoi ? Il a trouvé du sens.
Exactement. Parce que c'était du pratico-pratique, voilà, il le dit.
Il est pratico-pratique. Ouais. Derrière ça, il y a un réseau d'entreprises, comme par hasard, local, qui fait que le gars, il fait ses études à Anchin, et derrière, il va pouvoir travailler dans la région centre. C'est magique.
Ouais. Juste deux minutes, si vous pouvez répondre à tour de rôle en quelques
mots. Et après,
mots,
on se retrouve après l'avant-première.
Après. Il faut lire la carte.
Le travail doit-il avoir du sens pour tout le monde ?
La loyauté envers une entreprise, est-ce que c'est une valeur ou une illusion ? On va parler politique. J'ai 4 heures pour la loyauté envers une entreprise, valeur ou illusion.
Non, on est plus sur le bac. Seconde.
On n'est pas en philo de... Parce que là, moi, j'adore. Hein.
En quelques mots, tout de suite, ce qui vient à la tête, en tête.
Ah bah, moi, par rapport au travail, doit-il donner du sens pour tout le monde ? En fait, lorsqu'on aime son métier, et je pense que c'est d'abord ça, lorsqu'on a une appétence et qu'on aime son métier, on va bien se sentir au travail, et quand on va bien se sentir au travail, on va faire du bon travail.
Merci.
Okay, merci.
Pas mal. Bon, moi, je vais déjà commenter la question. La loyauté envers une entreprise, il faut déjà définir la loyauté. J'ai une demi-heure. Non, simplement, la loyauté, elle est envers soi-même. Elle n'est pas envers l'entreprise. Et ça, je pense qu'ici, il faut qu'on comprenne vraiment définitivement ça. Et cette jeune génération l'a compris. C'est qu'on ne va pas, travailler pour un patron, pour le patronat. On va travailler pour faire quelque chose, pour apporter de la plus-value, pour avoir un sens à sa vie professionnelle, faire du mieux qu'on peut dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, c'est la même chose. Donc la loyauté, c'est envers son entreprise, c'est envers sa femme, c'est envers son mari, c'est envers ses enfants, c'est envers tout ça. Donc une valeur, évidemment, et surtout pas une illusion, parce que si c'est une illusion, c'est un drame complet.
Pour notre société.
Et c'est un effondrement de société.
Merci.
Et n'hésitez pas à écouter et écouter les podcasts.
Mais si on peut. Et oui, n'hésitez pas à écouter les podcasts. Et si on a 4 heures, on se paie un effet. Parce que
non,
là.
Non, mais on vous fera un épisode.
Marc a du travail. Deux,
voilà.
Merci
à vous. Merci beaucoup.
À tous les deux. Merci. Donc, toujours dans le cadre de l'avant-première du film 100% orientation, on a la joie d'avoir avec nous Franck Jarget. Est-ce que je l'ai bien dit ?
Vous avez très bien dit.
Ah, merci. Qui est, alors attention, inspecteur de l'éducation nationale du second degré. Moi, rien que le titre, j'ai peur.
Non, il ne faut pas avoir peur. L'inspecteur de l'éducation nationale du second degré est en charge en particulier des filières du génie électrique.
D'accord, oui, parce que c'est une de vos passions ou formations initiales, j'ai cru comprendre.
Oui, effectivement, initialement, moi j'ai une formation d'électronicien et aujourd'hui j'ai la chance effectivement d'animer les formations professionnelles de l'électrotechnique et de l'électronique.
Quand vous dites animer, c'est-à-dire ?
Animer, c'est coordonner sur le territoire académique la formation des professeurs, le recrutement des professeurs et toute l'animation de la relation aussi, en particulier école-entreprise, puisque dans la formation professionnelle, les jeunes sont amenés à se former en alternance dans l'établissement scolaire dans lequel ils appartiennent et aussi dans les entreprises du secteur professionnel visé.
Et donc, sur des dispositifs d'alternance ?
Sur des dispositifs d'alternance, ils sont soit stagiaires, donc ils sont effectivement, ils signent une convention de stage entre l'établissement scolaire et l'entreprise, ou alors pour certains d'entre eux, ils sont apprentis, ils signent un contrat d'apprentissage entre un établissement scolaire et qui est centre d'apprentis et une entreprise.
Et donc, tout à l'heure, je posais une question à monsieur le proviseur et à Guillaume sur...
Quoi ?
Sur la carte des formations, je suppose.
Sur la carte de formation. Merci, Guillaume. Oui, parce que, en fin de compte, vu de l'extérieur, ce sont des dispositifs qui sont d'utilité publique, me semble-t-il. Et en même temps, l'éducation nationale, on dit souvent très éloignée du territoire, des besoins du territoire, alors que là, pour le coup, c'est pas la vérité. Non. Donc, comment vous la déterminez, cette carte de formation ?
Alors, la carte de formation, elle est arrêtée conjointement par le recteur d'académie et le président de région. Et donc, ce sont ces deux entités-là qui décident des arbitrages d'ouverture ou de fermeture, de création de diplômes. Et donc, ça se fait forcément dans l'ancrage territorial, parce que la formation professionnelle, elle a pour vocation de former de futurs professionnels. Et donc, forcément, cette formation professionnelle, elle est adaptée à l'ancrage territorial. Donc, elle se décide sur un niveau local. mais elle est bien en lien avec, avec son territoire.
Parce que c'est vrai qu'on entend très régulièrement dire qu'il y a des filières qui ferment, qu'on a du mal à recruter et qu'on n'a plus de plateau technique pour former les jeunes, etc., etc. Et donc, c'est basé sur des statistiques, sur des demandes d'entreprises. Lycées, non, c'est les demandes d'entreprises plutôt.
Je crois qu'il faut surtout voir qu'il y a une adaptabilité, une adaptation permanente des formations aux besoins du territoire. Ce qui explique que parfois des formations s'arrêtent, des formations sont créées, et c'est cette dynamique de fermeture et de création qui permet justement de répondre aux besoins du territoire. D'accord. Donc je pense qu'il y a un vrai intérêt à ce que les entreprises, l'éducation nationale et la formation professionnelle portée à l'éducation nationale s'inscrivent dans une logique territoriale.
D'ailleurs, il y a eu des outils qui ont été mis en place pour voir justement Orion, je pense, qui a été mis en place pour voir les formations qui sont entre guillemets viables et celles qui sont porteuses.
Alors, moi qui viens du commerce, du marketing, des formations dites viables, ça veut dire quoi ?
Alors, si je ne me trompe pas, c'est différents critères. Il y a l'insertion, le taux d'insertion de l'emploi.
Ah oui,
il y a le taux de poursuite d'études, donc les gens qui s'intègrent dans la formation.
Des vrais indicateurs.
Voilà, et alors il en reste deux.
Alors, je ne sais pas si on peut définir une formation par sa viabilité. Ce qui est important, c'est qu'elle réponde à un enjeu de territoire et qu'elle permette aussi à des jeunes, dans un processus de formation, de trouver une voie de formation. Parce qu'il n'y a pas toujours une adéquation directe entre une formation et le métier que va exercer le jeune qui est formé. Je prends un exemple. Vous pouvez très bien imaginer qu'un jeune va venir se former dans un diplôme, par exemple, en lien avec l'hôtellerie-restauration, mais va finalement trouver un débouché professionnel dans le métier du tourisme. Et pourtant, même si sa trajectoire professionnelle s'inscrit dans un métier qui est connexe au diplôme, ça répond quand même à un besoin économique.
C'est l'indicateur employabilité. C'est pas forcément. Et juste encore une question. Quand vous mettez en place ce dispositif, j'ai bien compris, donc décidé conjointement avec plusieurs structures, la région, l'éducation nationale, le territoire, etc. Vous avez des objectifs?
L'objectif, c'est les objectifs. Ils sont définis par le président de région et par le recteur d'académie, après concertation avec un certain nombre d'acteurs locaux. Et encore une fois, je pense qu'il y a vraiment une recherche de faire vivre la carte des formations pour l'adapter aux besoins du territoire. Et notamment avec les colorations de diplômes qui aujourd'hui permettent effectivement d'avoir des diplômes nationaux, mais avec des spécifications locales.
C'est les options, c'est ça ?
Ce sont des colorations.
Colorations
ou labels qui permettent effectivement d'avoir un cadre national, puisqu'à l'éducation nationale, les diplômes sont nationaux, ils ont un cadrage national, mais on a des outils qui permettent de faire une adaptation de ces diplômes nationaux au contexte local, à travers les colorations de diplômes ou les labellisations technologiques qui peuvent être proposées par les établissements.
C'est incroyable, ça.
Pour exemple, au lycée Joséphine Becker, on travaille avec M. Jargé sur la labellisation aéronautique au sein du bac pro ciel. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de former des jeunes plus spécifiquement, toujours dans le domaine de l'électronique, mais à des jeunes qui vont s'orienter vers les systèmes avioniques. C'est-à-dire donc des jeunes qui vont apprendre à faire de l'électronique, mais dédiés à l'aéronautique.
D'accord.
En fait, tout est réfléchi d'un point extérieur. On se dit, bon, voilà, il y a des formations ici, là, un peu partout en France. Mais en fait, il y a une réelle stratégie à chaque fois derrière.
Et quand on regarde les bassins d'emploi, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des spécificités qui sont importantes. Je vous parlais du bassin donc parisien, dans l'électronique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et il y a beaucoup d'entreprises de type Safran, Airbus, où ils recherchent aussi dans le domaine de l'électronique.
Oui, parce que l'électronique, effectivement, les cartes électroniques des produits de grande consommation, on sait que c'est délocalisé très très loin de chez nous, et qu'aujourd'hui, c'est vraiment sur des typologies et des secteurs d'activité d'excellence en France, où on sait très bien faire. Et donc, c'est pour ça que ben voilà, moi, j'ai appris plein de choses. Ouais, et c'est vrai que vu de l'extérieur, on n'a pas, il faut être à l'intérieur du système pour comprendre comment ça fonctionne. Mais ça fonctionne plutôt bien, et il faut le dire. Et vous mettez en place des dispositifs avec des colorations. Est-ce que j'ai bien compris ?
Avec des objectifs.
Avec des objectifs.
Oui, les colorations de diplôme ont vraiment pour objectif d'adapter le diplôme au contexte local. Donc oui, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est important que la formation professionnelle réponde à des besoins exprimés localement. Et donc toutes les décisions liées aux évolutions de l'implantation de la carte des formations, elles sont réfléchies à partir d'éléments statistiques, à partir d'éléments fournis par les entreprises qui vont aussi émettre des perspectives d'emploi. Et donc, c'est la collecte d'un certain nombre d'informations qui vont permettre d'orienter les décisions.
Et vraiment, la dernière des dernières, parce que moi, je suis madame question, c'est filière générale ou filière professionnelle ?
Mais je crois qu'il ne faut pas opposer les deux filières. C'est-à-dire que aujourd'hui, le système éducatif, il est organisé en filière générale, filière technologique, filière professionnelle. L'essentiel, c'est de trouver sa voie en fonction de son aspiration, de sa capacité, en pensant bien que la formation, elle a lieu tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'on peut commencer sa formation avec un diplôme modeste. Ou avec un haut niveau de diplomation, mais de toute manière tous les métiers aujourd'hui évoluent, et donc quel que soit le métier, quel que soit le diplôme que l'on obtient en fin de formation initiale, de toute manière dans son parcours professionnel on aura besoin de revenir à la formation continue. Donc ce qui compte aujourd'hui, c'est certainement de choisir un métier ou une filière de formation en lien avec ses aspirations, mais quel que soit le choix qui sera opéré, il y aura forcément, à un moment donné, passage par la question de la formation continue. Donc je crois que c'est important de ne pas opposer la filière générale, la filière technologique et la filière professionnelle.
Nous, on défend ça et la formation tout au long de sa vie. Et ça existe. Et on a des dispositifs en France qui offrent ça. Et parfois qui sont méconnus, mais quand on...
Souvent qui sont méconnus.
Ouais, qui sont souvent méconnus. Mais oui. Merci.
Merci.
Avec plaisir.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? On va commencer par les jeunes.
Alors moi, je m'appelle Bilal Siksik. Je vais rentrer en première CIEL au lycée Joséphine Baker.
Un bac pro, du coup ?
Oui, un bac pro.
Ok.
Et je vais du coup aller en première MTN.
Donc là, à la rentrée de septembre 2026 ?
En rentrée de septembre.
Ok. Et tu sors de quelle...
Seconde MTN.
Le quoi ?
MTN.
C'est quoi ?
C'est une filière informatique, électronique aussi.
Donc tu aimes déjà ça ?
Ouais.
Bon, ça c'est bien.
Je me présente, je m'appelle Renan Poul. J'ai été élève en terminale CIEL au lycée Joséphine Baker à Anche. Là je vais passer en BTS SIO au lycée de Fulbert. J'ai du coup présenté la filière et où j'avais réalisé mon stage dans le film 100% cyber électronique et cyber.
Et moi, c'est Jérôme Botz, donc je suis président de Systech, une entreprise fabricant d'électronique, sous-traitance, pour les domaines de la défense, de l'aéronautique, du médical et tout type d'industrie qui a besoin de consommer de l'électronique. Une entreprise que j'ai repris il y a plus de 14 ans maintenant, avec mon associé Vincent. Une belle aventure.
Alors, moi, j'ai juste une question pour les jeunes et après pour vous.
Parce que moi, je suis pas jeune ?
Non.
Bon.
Ah, mais je peux pas mentir, il n'y a pas d'image, mais je dis la vérité.
Oui.
Il est plus âgé que vous, le monsieur.
Hein? Oui.
Mais moi aussi, la dame aussi, elle est plus âgée.
Ouais. Alors par contre, il faut toujours rester très jeune dans sa tête. Mmh. Hein? Qui qu'on soit, il faut...
La preuve, je me suis lancée dans les podcasts à 56 ans.
Ouais. À 56 ça, c'est ans. La génération X qui dit ça tout le temps. Je pense que vous le savez, tout le monde dit. Il faut rester jeune dans sa tête.
Alors là...
Ouais, mais c'est facile en même temps.
Bon, en tout cas, moi, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi cette filière. Et ouais, je veux tout savoir. Pourquoi la filière électronique ?
J'ai choisi la filière électronique. Après, j'ai changé beaucoup de... Parce qu'en fait, quand j'étais petit, je voulais faire plein de métiers différents. Et du coup, j'étais jamais stable dans ce que je voulais faire. Et
curieux.
Ouais, je suis curieux. On m'a parlé d'informatique, du coup, j'ai vu que ça me plaisait. Du coup, je me suis dit que j'allais voir dans l'informatique. Et finalement, ça m'a plu.
Alors, est-ce qu'il faut vraiment être bon en maths ou pas ?
En fait...
Ça veut dire oui.
Alors, ça dépend. Vaut mieux être bon, oui. Mais je pense que même si t'es pas très bon, c'est quand même pas foutu.
Alors moi, on m'a dit que si on n'était pas bon en maths, on pouvait très bien réussir dans cette filière parce qu'on faisait beaucoup de pratiques. Est-ce que c'est comme ça que t'imagines ?
Oui, oui. Ouais.
Tu confirmes ?
Oui, je confirme parce que les profs, ils vont nous réapprendre des formules qu'on avait vues au collège, mais qu'on avait oubliées entre-temps, et montrer ensuite, avec les profs de pro, l'importance de ces formules pour les métiers, pour l'électronique, pour le réseau.
Et j'imagine que de le pratiquer justement sous forme d'atelier ou au travers de stages que vous pouvez faire en entreprise, c'est aussi plus facile de retenir les formules.
Oui, parce que du coup, on manipule beaucoup, on travaille beaucoup en manuel, c'est plus de la théorie, ça devient de la pratique. Et ça, du coup, à force de répéter les choses, ça rentre dans notre cerveau, ça devient un mécanisme.
Est-ce que ton stage, tu l'as fait dans l'entreprise Systech ?
Oui, c'était mon tout premier stage.
Allez, raconte, on veut tout savoir.
Alors, au départ, je ne savais pas que cette entreprise existait, mais le lycée avait organisé une... Comme on était premier à rentrer dans le lycée, ils ont organisé une visite où on a visité l'entreprise. Et en visitant l'entreprise, j'ai bien aimé découvrir ce qu'ils faisaient. Et c'est comme ça qu'après, j'ai voulu faire mon premier stage dans cette entreprise pour manipuler, pour travailler dans le monde du travail.
Alors, je vais me tourner vers vous. En quoi c'est important pour vous, justement, d'accueillir ces jeunes au sein de votre entreprise ?
Alors, nous, déjà, pour pouvoir accueillir ces jeunes au sein de l'entreprise, on essaye de se faire connaître. Donc, on est toujours bien présent pour la journée de l'industrie. Donc, on ouvre l'entreprise aux jeunes, aux demandeurs d'emploi et à d'autres types de personnes. On a aussi un partenariat avec le lycée Joséphine Baker qui a lancé le BTS Ciel maintenant il y a 3 ans. Donc c'est un nouveau BTS électronique puisque il n'y a plus de formation électronique en France depuis 10 ans. Donc on a eu la chance d'avoir ça en France. C'est très bien parce qu'il y a énormément de boulot. Donc les jeunes pour nous c'est extrêmement important parce que c'est l'avenir. On veut des jeunes qui vraiment aient envie de venir travailler dans l'entreprise avec une bonne formation, avec la banane, une bonne positivité, une capacité d'apprendre qu'on a pu à nos âges. Voilà.
Et ce qui est très important, parce que toi, tu as vers une autre filière, mais toi, tu vas rentrer dans cette filière. Donc, il faut absolument garder les coordonnées de ce monsieur pour aller faire ton stage.
Ouais.
Alors, tu as mes coordonnées, bien sûr. Tu es le très bienvenu, hein. Donc, moi, j'aime bien les gens qui connaissent l'électronique, qui connaissent les maths, etc. Mais moi, ce que je demande beaucoup aux employés de Systech et aux gens qui m'entourent, c'est la règle de 3. La règle de 3, rapide, instantanée, des bonnes proportionnalités et le bon sens. Voilà. Toujours avoir du bon sens, même si on est Bac plus 2, Bac plus 5 ou n'importe quoi, il faut du bon sens. Il faut coller à la réalité, essayer d'être le plus pratique possible en entreprise. Donc on adore avoir des gens bien formés En théorie, même si on sait très bien qu'au lycée Josephine Baker, BTSIL, c'est quand même très très pratique, vous mettez vraiment les deux mains dedans et c'est pour ça qu'on aime bien cette formation. On aime des gens qui vont sur le terrain et qui essayent de se donner.
Est-ce que vous avez beaucoup de problèmes de recrutement ?
Alors, on a des problèmes de recrutement, hein, puisque c'est quand même un peu difficile par ces temps-ci. On a surtout des gens qui vont plus qu'à... Alors, nous, les gens restent en moyenne chez nous 7 ou 8 ans.
Ah oui, hein, quand même.
Ouais, 7 ou 8 ans, donc c'est déjà pas mal. Mais les populations jeunes vont rester chez nous à peu près 3 ou 4 ans, contrairement turnover, aux anciens. Ouais. Pas mal de turnover, où ils viennent picorer un petit peu et faire une première expérience en fait chez Systec. Au bout de 2-3 ans, ils ont envie d'aller découvrir en fait d'autres entreprises. Quand on a des gens qui ont déjà fait 2, 3, 4 entreprises, ils se posent chez nous et là on sait qu'ils vont rester un petit peu plus longtemps, puisqu'on est quand même dans l'électronique en France, dans un segment qui est très porteur, une industrie qui est propre, qui fait pas de bruit, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'accident du travail, donc c'est quand même une industrie high tech qui est très intéressante pour les gens qui vont y rentrer, à condition de pouvoir comparer avec ce qu'on a vécu avant. Et quand c'est la première entreprise, il n'y a pas de comparaison. Et il y a même beaucoup de contraintes, en fait, puisque malheureusement, dans le monde de l'entreprise, il y a quand même pas mal de contraintes. Il faut essayer d'arriver à l'heure, de travailler,
c'est important,
etc.
Voilà, donc, la posture, le savoir-être. Il y a le savoir-faire, et donc le savoir-être. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui va faire la différence, je pense, le savoir-être.
Je pense aussi.
Par contre, donc, comment est-ce que une entreprise comme Systec, par rapport à ce turnover qui est un peu plus important que sur d'autres générations, sur la Gen Z, comment on imagine la suite ? Comment les fidéliser ? Comment les piloter, les manager ?
Alors, déjà, il faut très bien les intégrer. On essaye de les intégrer en leur le onboarding, hein, en leur montrant en fait tous les métiers de Systec. Hein, chez nous, c'est le parcours en fait du nouvel arrivant. Et puis tout au long de leur vie, on va les former à des métiers différents chez nous. On va essayer de leur donner le plus de plaisir possible en leur donnant déjà notre confiance, hein, beaucoup de confiance, en croyant en eux et puis en faisant en sorte qu'ils puissent s'épanouir. Venir nous voir quand ils ont besoin de nous, bien sûr prendre des gros challenges, donc bien sûr on accepte en fait les erreurs parce qu'on leur demande d'y aller, être très compréhensif et puis finalement essayer de monter leurs compétences, leur niveau dans le plaisir, parce que c'est une notion qui est importante
pour
eux.
Avec la formation aussi.
Avec la formation
parce que
interne.
Ça évolue ça évolue très vite ces métiers.
Alors justement, vu qu'on a deux jeunes avec nous, vous, qu'est-ce que vous attendez d'une entreprise ? Qu'est-ce qui fait que vous iriez dans une entreprise ? Vous pouvez tout dire, hein, c'est sans filtre.
Oui, non, mais je me demandais s'il allait répondre en premier.
Qu'elle soit accueillante, conviviale.
C'est quoi pour toi être accueillante et conviviale ?
Vas-y,
lâche-toi. C'est fait pour qu'on comprenne, tu vois.
Je sais pas trop, mais...
Qu'elle t'intègre dans... Pour moi, quand une entreprise, quand elle accueille, c'est pas... C'est elle accompagne, elle montre ce qu'ils font et du coup, le travail qu'on va réaliser, pas... Et quand pas le laisser... en fait, juste pour le prendre, mais le laisser tout seul sans le former, sans l'accompagner pour aider à travailler.
Et donc là, toute son importance sur le tuteur. Parce que même si on est très compétent, on n'est pas forcément en compétence de transférer des compétences. Et là, vous faites quoi ?
Alors là, ce qu'on fait donc pour le tutorat, c'est que systématiquement, on leur met un parrain ou une marraine en fait pour les accompagner. Et en fait, on a une doctrine chez nous, c'est qu'on communique et on leur parle jamais assez en fait, hein, puisqu'il faut leur donner du sens. On pense souvent que on leur explique des choses, on pense souvent que c'est plus simple en fait que ce qu'on croit, et en fait ils connaissent pas du tout le métier. Donc il faut vraiment leur donner les tenants, les aboutissants, le répéter, puisque malgré tout c'est la répétition qui fixe la notion, et puis essayer de leur donner du sens, savoir à quoi ils participent et leur démontrer que leur travail est extrêmement important en fait pour eux, pour leur service, pour l'entreprise et même pour la société dans laquelle ils vont pouvoir vivre. Donc c'est participer. Nous, le symbole de l'entreprise, en fait, c'est le colibri. Hein. Et c'est l'histoire du colibri pour lequel le plus important, bah, c'est que chacun puisse faire sa part, même si sa part, elle est extrêmement, extrêmement petite.
Alors, ouais, moi, je crois qu'effectivement, la génération Z, de par notre expérience d'enregistrement de nombreux épisodes avec cette génération, ils ont besoin à la fois d'autonomie, de reconnaissance, mais ils ont surtout besoin d'un cadre. Et le tutorat ou le parrainage ou marrainage, je ne sais même pas si ça se dit, marrainage, ouais, ça se dit, c'est essentiel pour l'intégration. Donc voilà. Est-ce que tu as envie d'aller faire ton stage chez Systech?
Bah oui.
Ouais.
ouf, merci.
Tu sais ce qu'ils font comme métier quand même? Qu'est-ce qu'ils font?
Maintenant tu m'en portes un feu.
Mais non.
T'as le droit de pas savoir.
Tu sais quoi? Ils font de l'électronique.
Oui, oui.
Eh ben voilà, ils font de l'électronique. Alors, c'était ça?
Fabrication de cartes électroniques et de sous-ensembles électroniques.
Alors, moi, j'ai une question, parce qu'il y a quelque chose qui me taraude. Moi, je ne suis pas du tout de cet univers-là. Et du coup, entre la conception et la fabrication, qui conçoit les bureaux d'études? Vous avez recherche et développement?
Alors, nous, on a recherche et développement, donc, qui vont partir en fait d'une feuille vierge ou d'un cahier des charges, d'une idée d'un client.
D'accord.
Qui vont concevoir en fait toute la schématique électronique pour répondre à un besoin et à un mode de fonctionnement d'un appareil. Hein. Ensuite de ça, on va passer sur le bureau d'études de la CAO, la conception assistée par ordinateur, pour définir physiquement
le prototype.
Le prototype, voilà, ouais. Le prototype, exactement.
Ce et puis après, font ici à Joséphine Baker, des prototypes.
Exactement, ce que vous faites ici d'ailleurs très bien. Et après, on va lancer une industrialisation du prototype chez nous en achetant les composants, en sourçant les composants partout dans le monde, en les réceptionnant, et en lançant ces composants et cette carte qui au début est vierge sur la ligne d'assemblage avec des machines, des robots et des testeurs pour être capable en fait de créer la pièce finale.
Et aujourd'hui, les cartes qui sont fabriquées chez Systech, c'est des cartes de téléphone, d'ordinateur.
Alors c'est des cartes qui
sont dans les avions.
Alors c'est des cartes qui sont dans les avions. Qui vont permettre en fait aux différents organes de l'avion de fonctionner. Donc effectivement, bah, vous pouvez nous faire confiance en fait, puisqu'on teste en fait 100% de nos productions en fait chez Systech. On a de multiples appareillages de contrôle en fait sur les lignes de production en entrée et en sortie pour s'assurer que la carte soit réellement fonctionnelle à 100% et que derrière on n'aura aucun problème, donc aucune avarie possible en fait sur l'avion. Alors il y a des avions, il y a aussi de la défense. C'est aujourd'hui que la défense a pris un bel essor en fait en France. On sait que dans les 10 ou 20 ans, de toute façon, on a besoin de renforcer la défense française. Donc on est aussi sur tous les programmes à enjeu fort dans la défense qui sont menés par les grands acteurs français. Hein. Et nous, on en fait partie de la BITD française, donc c'est la base industriel et technologique de la défense française, donc on est suivi. On doit être à peu près 3000 en France hein, qui appartiennent à la BITD, donc ça c'est très très bien. Et puis tout type d'industriel qui a besoin de mettre de l'intelligence en fait dans son produit et qui aura donc besoin de mettre en fait de l'électronique.
Donc en synthèse, chez Systech, si j'ai bien compris, c'est vraiment de l'électronique d'excellence ou à plus forte valeur ajoutée. C'est pas sur des produits de grande consommation, etc. C'est de la recherche et développement. Donc moi, je suis très fière de ça parce qu'en fin de compte, on réindustrialise en France sur des secteurs d'activité d'excellence.
Absolument. Et moi, je suis très fier de vous parce que vous avez bien compris ce qu'était Systech. Et effectivement, avec une très forte qualité, mais en plus une très forte agilité, une très forte réactivité, puisque nos gros acteurs, bien sûr, ils ont toujours besoin de la qualité, mais aujourd'hui, ils ont besoin d'une réactivité très forte, des délais très courts, parce qu'il faut produire dans des temps records, parce qu'on a pris un petit peu de retard parfois en France, et donc on est là pour les aider à combler ce retard. Donc bravo d'avoir compris tout ça.
Oui.
Non, je vous taquine, hein. Je vous taquine.
Bonjour, alors on a la joie de recevoir le responsable de la ressourcerie. Alors, qui vous
ressourcez-vous
êtes ressourcerie ou ressourcez-vous?
Bah, la ressourcerie, c'est la fonction, c'est comme une boulangerie,
oui.
Mais ressourcez-vous, c'est le nom de l'association.
Et voilà. Ben voilà, bravo. Dites-nous tout.
Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Bah, d'abord, qui vous êtes et pourquoi la
et
ressource
pourquoi
oui, et pourquoi l'implantation en Eure-et-Loire, etc.
Ouais.
D'accord. Bah, du coup, je m'appelle Tanguy, neveu de mon nom de famille. Je suis responsable de l'association Ressourcez-vous. Et en ce sens, Ressourcez-vous, c'est une ressourcerie qui récupère les objets que les gens ne peuvent plus garder et qui les revend à bas prix. Entre temps, elle les teste, les diagnostique si nécessaire et les répare si nécessaire. Pourquoi l'implantation ici? Parce qu'il n'y a rien d'autre que nous. On avait une structure de réemploi solidaire, il n'y a pas de son d'autre structure. Il n'y a pas d'Emmaüs, il n'y a pas de recyclerie, ressourcerie en dehors de Ressourcez-vous. Nous, on est une équipe qui vient de Rambouillet alentour et donc on s'est installé dans le début de l'Eure-et-Loire, c'est très proche. Donc non, il faut que tous les territoires soient dotés de structures de réemploi. Donc nous voilà.
Alors, et donc du coup, on vous a découvert, si je peux le dire comme ça, dans le film qui était en projection ce soir.
Ouais.
Pourquoi c'était important pour vous de passer dans ce film-là? Et surtout, pourquoi? Parce que vous en avez beaucoup parlé dans le film de l'association avec le lycée Joséphine Baker.
Ouais.
Pourquoi tout ça, c'est important pour vous?
Pourquoi c'est important dans le film?
Dans le film et surtout votre asso, enfin déjà dans le film, oui, pour j'imagine promouvoir, etc., mais aussi votre association avec le lycée Joséphine Baker.
Alors, nous, il y a deux choses. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'il faut faire mettre en avant ce qu'on fait. Parce que dans, vous avez bien vu dans le film, il y a beaucoup de structures qui vendent du neuf, hein, malgré tout, hein, qui font des missiles aussi. Sans jugement, entre guillemets, c'est cool aussi de voir aussi des choses qui sont localement situées, qui récupèrent des choses localement et qui les revendent au public local. Ça veut dire récupérer, éviter le déchet, etc. etc., etc. Donc nous, on fait partie d'un écosystème où je pense qu'on doit exister. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste des assos déconnectés de ce qui existe. Et dans les formations, bah, y a de plus en plus besoin de réparateurs, réparatrices. Il y a la loi qui s'est mise en place, les indices de réparabilité, la prime réparation. Et nous, on a de plus en plus de soutien théoriquement parlant, même si ça met du temps à se mettre en place, des collectivités et des pouvoirs publics pour développer nos activités. En fait, l'économie circulaire, elle doit avoir sa place dans les formations du coup de lycée, de l'université, etc., etc. Et c'est pour ça que pour moi, c'est clairement important d'être présent ici.
Et les profils de jeunes, vous pouvez les embaucher après le bac pro, après le BTS, c'est quoi comme profil?
Les gens qu'on embauche,
ouais.
Alors nous, c'est particulier parce que les structures de ressourcerie, on va dire les structures du réemploi solidaire, comme on dit, elles sont fondamentalement déficitaires. Donc on est un peu... là qu'en fait, ça nous coûte plus cher de réparer et récupérer les objets que ça nous en rapporte. Donc on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle l'insertion. Donc on a des contrats dits d'insertion. Il y a des structures qui fonctionnent avec le bénévolat, d'autres avec d'autres types de contrats, mais nous on est sur de l'insertion. Donc on a beaucoup de gens qui n'ont pas de compétences, qui arrivent chez nous, peu de compétences. L'avantage de mixer avec des stagiaires, par exemple, c'est que du coup les stagiaires apportent leurs compétences théoriques.
Vous faites du mentorat inversé.
Ouais, un peu.
Ah,
un
c'est
peu.
Chouette. C'est totalement dans notre ADN. C'est pour ça que je me permets de souligner.
Ouais, un peu. Par extension, on en fait un peu. Puis il y a des bénévoles qui ont un certain âge, qui aident des jeunes, et inversement, des jeunes qui connaissent en électronique et qui vont apprendre à un bénévole qui, lui, avait des connaissances en verre hydraulique, etc., etc. Mais par contre, du coup, c'est vrai qu'on embauche peu à la sortie du boulot, à part un encadrant technique spécialisé, atelier réparation, atelier électrique électronique, on va dire. Mais c'est vrai qu'on va embaucher peu. Là, à l'heure actuelle, on n'a pas d'encadrant sur cet atelier parce qu'on s'est réinstallé sur Galardon, comme j'ai dit dans la vidéo, depuis assez peu de temps. Donc on essaye de dire, on a un peu de bordel à ranger, si je puis me permettre. Enfin, c'est clairement le bazar. Et du coup, on range. Et après, on va commencer à vraiment reprendre un peu des forces pour pouvoir embaucher. Ouais.
Et moi, sur...
J'ai un peu sorti de la question, mais...
Non, mais c'est très bien.
Non, c'est très super bien. Intéressant.
Désolé, mais vas-y. Je vous ai pris.
Il ne faut pas.
Moi, j'ai encore une question. La question, c'est combien vous traitez d'appareils et combien vous réinjectez d'appareils sur un mois, six mois, un an?
Alors nous on fonctionne en tonnage, donc je pourrais vous dire en poids. En poids, sur une année, on récupère à peu près 1300 tonnes tout confondu. Hein. Bon bah voilà, 1300 tonnes, il est pas mal celui-là. 1300 tonnes tout confondu. Sur l'électrique et l'électronique, c'est à peu près 15%. Donc on va dire 200 tonnes hein, à tout casser. Et sur l'électrique et l'électronique, c'est la moitié. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié qui repartent à la benne et la moitié qui réussit à retrouver une vente, enfin une seconde vie par la vente principalement à bas prix et parfois par le don des entreprises, des partenaires, des associations aussi.
Et vous vendez sur place?
Ouais.
D'accord, ouais, ok.
Bah, là où, à Galardon, on a un énorme entrepôt qu'on a depuis très peu de temps. On n'avait pas aussi grand avant, c'est énorme pour nous. Puis on a une boutique qui est de l'autre côté de l'entrepôt, mais oui, on a les deux.
Et sur l'entrepôt, et vraiment c'est la dernière question, combien il y a de personnes ?
Sur tout ce site, il y en a environ 25. Ah, je pense qu'il y en a environ 5-6 sur la... Bah, un peu plus, peut-être 7-8 sur la boutique. Donc oui, il y a au moins 16 à 17 personnes sur l'entrepôt.
Ok. Ah ouais.
Et sans compter les stagiaires. Hein. Je ne compte pas les stagiaires qui viennent par-ci, par-là. Ah, pour moi, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est du bonus. C'est clairement, ça nous aide, ça nous permet de leur montrer des choses, etc. etc. et eux, mais on n'a pas de... Voilà, nous, on compte sur eux comme un plus, pas comme « viens au charbon, mon copain ». C'est plutôt, voilà, vous êtes là pour nous aider et pour apprendre des choses. De toute façon, l'avantage de la ressourcerie, bon, là, je digresse un tout petit peu, c'est comme on récupère des objets. Pour nous, ils n'ont pas de valeur ni sentimentale ni marchande, c'est du don. Donc, du coup, tout le temps que ça prend, c'est ça qui coûte. Donc, du coup, à la limite, on leur dit « vous êtes stagiaire, testez-vous, amusez-vous, si vous arrivez à réparer, vous le réparez, quoi. Si vous arrivez à le diagnostiquer, vous y arrivez, et si vous n'arrivez pas, bah, tant pis, on jette. Voilà. »
C'est hyper, c'est hyper formateur au final. Enfin,
en fait, il n'y a pas de valeur marchande. S'ils se trompent, on s'en fout. On a envie de dire, c'est un peu ça.
Faut venir apprendre chez vous, en fait. Quand on est un jeune, justement, qui veut se lancer dans ce métier, faut venir chez vous.
Ouais, bah, carrément, avec plaisir.
Combien il y a de ressources, vous, en France ?
Alors, ressourcez-vous, l'association, nous, on est dans la région. On est situé entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Chartres.
D'accord.
Donc, nous, on a 6 boutiques solidaires et à peu près 9 locaux, si on compte les petits entrepôts aussi.
Okay.
Mais du coup, au total, il y a environ 90 salariés. Et si on compte les services civiques, les stagiaires, les gens qui passent au quotidien, vous avez 110 à 120 personnes.
Ok.
C'est-à-dire qu'ils ont une activité, un contrat. Et je compte même pas les bénévoles, hein. Ça peut monter un peu plus sur les sites.
Eh ben, bravo.
Oui.
Merci Tanguy. Je sais que vous êtes pressé, donc on va vous libérer.
C'est une activité associative derrière. C'est le Rambouillet.
Ah, mais voilà, c'est génial.
C'est rien à voir.
Quand on est, quand on a ça dans les gènes, hein, on peut pas s'en passer. Merci.
Avec plaisir. Bonne soirée. Bravo. Et merci pour vous. J'ai regardé un peu.
Alors bonsoir, on a parmi nous, ce qui est intéressant, une entreprise, Systec,
de nouveau
Systec, et un professeur, donc s'appelle Monsieur Davoust, et qui va tout nous dire sur l'électronique et ensuite avoir le regard croisé d'un dirigeant d'entreprise dans l'électronique et d'un professeur qui enseigne cette matière. Alors, qu'est-ce que c'est l'électronique ?
Ah, là, ça, c'est la question piège. C'est tellement vaste.
C'est peut-être la difficulté aussi pour passer un message.
Voilà. Et, l'électronique, c'est, on va dire, c'est une manière de faire fonctionner les choses seules et de manière autonome, en partie. Donc, ça peut être souvent, pour l'électronique, je prends l'exemple d'une voiture. Imaginez les voitures, au début, il n'y avait pas beaucoup d'électronique. Puis après, dans les voitures, on s'est mis à avoir de plus en plus d'électronique, des capteurs. On s'est trouvé avec plein de capteurs un petit peu partout dans la voiture. Et imaginez si tous ces capteurs, il fallait les relier au cerveau de la voiture. On aurait des fils partout, on en aurait entre les jambes, partout dans l'habitat. Donc, grâce à l'électronique, on arrive aussi à faire communiquer les cartes et les capteurs ensemble.
Et là, on parle de réseau.
Et là, on parle... Alors, c'est un réseau. Alors, je dirais, électronique, c'est un petit réseau. On ne parle pas du réseau Internet.
Non.
Là, on parle d'un réseau, un bus de communication. On va faire ça pour faire communiquer toutes les cartes ensemble. Et ça évite d'avoir des fils qui se promènent partout, par exemple, dans la voiture.
Mais vous expliquez super bien, du coup.
Voilà.
Et moi, en fin de compte, je me pose aussi la question, parce que dans le film, super film qu'on a vu en avant-première ce soir, il est mentionné qu'effectivement, ce sont des métiers qui évoluent rapidement, etc. Et comment on adapte la formation à cette évolution aussi rapide ?
Eh bien, on essaie de se tenir au courant, de s'informer des nouvelles technologies qui existent et... On essaie de travailler, nous, en amont sur ces nouveaux composants, ces nouveaux microcontrôleurs, ces nouveaux logiciels, pour ensuite essayer d'en faire part aux élèves. Maintenant, on a toujours plusieurs années de décalage, malheureusement. On ne peut pas suivre en permanence l'évolution.
Il n'y a pas une cellule qui fait de la veille pour vous?
Il existe des cellules de veille, mais non, ça n'existe pas. Nous, c'est de l'auto-formation que l'on fait.
OK.
Et du coup, vous allez en entreprise pour vous auto-former ou pas?
Alors du coup, il existe en fait des passerelles entre l'éducation et puis le monde de l'entreprise qui permettent aux uns et aux autres en fait de s'enrichir. Le monde de l'éducation, avec des technologies en fait qui arrivent de la part des industriels, et puis pour l'industriel en prenant des bons potentiels, etc., qui lui permettent d'augmenter ses compétences et puis ses ressources,
voilà.
Avec des étudiants formés et sérieux qui viennent
en stage
chez nous.
Et puis aussi, Et le fait d'avoir les entreprises, nous, de se déplacer dans les entreprises, ça nous permet, et c'est là que l'on voit les nouvelles technologies qui sont utilisées. Des nouveaux composants, on dit, ah tiens, celui-là, je n'étais pas au courant que vous travailliez sur ce système-là. Comme avec l'ingénieur de Systech, j'ai découvert que finalement, on allait utiliser quasiment le même logiciel.
Voilà, je voulais un exemple pour le donner.
Voilà, je n'étais pas au courant que Systech utilisait le logiciel que moi, je voulais utiliser avec mes étudiants.
Donc les ponts se font par des visites régulières,
des stages, des périodes d'apprentissage, des projets.
Mode projet.
Projet toujours, parce qu'il faut savoir que nous on travaille pour les projets de nos clients. On a plus d'une centaine de clients qui sont dans les domaines les plus exigeants en termes de technologie en France. Donc on est sur des domaines de pointe, sur des nouveautés, puisqu'on est aussi dans le domaine du prototype et de la petite série en France pour l'industrie, pour l'aéronautique, pour la défense. Donc effectivement, on est même aussi, nous, parfois en limite d'être dépassés. Donc on a besoin de se poser quelques temps, d'apprendre, de rechercher pour pouvoir faire face à ces nouvelles techno.
Je voulais juste demander, lui, ça fait combien de temps que vous exercez dans ce domaine, dans cette fonction?
Oh là. Donc, on va dire, ça doit faire bientôt 30 ans.
Est-ce que vous avez vu une évolution sur la mixité des groupes?
Très peu.
Ah.
Alors, j'ai envie de vous dire, dans les débuts, c'était zéro fille.
Oui.
Maintenant, j'arrive régulièrement à en avoir une, deux maximum, malheureusement. Et pour l'instant, l'électronique, on n'arrive pas pourtant à s'en sortir super bien à chaque fois.
Alors, pour la mixité chez Systech, moi j'ai repris l'entreprise avec mon associé, là, il y a 14 ans, Vincent, que je salue ici, mais qui n'est pas présent. On avait 30% de femmes, et aujourd'hui on est arrivé à 49% de population féminine. À ce point que je dis à mes bons hommes, je dis faites attention, parce que là vous êtes en train de perdre la majorité. Donc si vous perdez la majorité, vous allez perdre le pouvoir. Et là, vous allez voir mes amis ce qui va vous arriver, donc soyez... Soyez bons, parce qu'elles sont en train de prendre les postes.
Doucement
mais sûrement. Et elles vont vous pousser dehors. Donc vous avez chaud aux fesses. Donc à vous de réagir. On vient d'ailleurs à ce titre d'intégrer une nouvelle personne dans le codir du Systech. Donc maintenant on a 3 femmes sur 7. Hein, donc 3 femmes, 4 hommes pour l'instant. Mais ça va bientôt basculer.
Mais est-ce que vous avez des arguments justement pour les convaincre, que ce soit en salariat, voilà, quelqu'un qui cherche du travail, ou justement sur une étudiante qui souhaiterait intégrer le BTS ou le Bac Pro? Comment on fait?
Alors au niveau des arguments, le domaine de l'électronique, c'est un domaine qui est extrêmement compliqué, parce qu'il y a plein de choses, à sourcer. On travaille des projets en parallèle, on fait plusieurs choses à la fois. Il y a énormément de communication, énormément d'informations. C'est des talents de femmes. Donc elles viennent, elles rentrent dans l'entreprise et finalement, en fait, elles montent en fait, parce qu'elles correspondent tout à fait à ce qu'on a besoin.
Mais c'est des techniciennes.
Il y a des techniciennes, il y a des cadres, il y a des ingénieurs, il y a absolument tous les niveaux.
Mais moi, dans l'éducation, je les ai beaucoup plus jeunes, les jeunes filles. Et à cet âge-là, pour l'instant, dans les mentalités, aller dans un domaine technique, non, c'est pas du tout à 15-16 ans, c'est pas du tout dans leurs mœurs.
Et pourtant, on est dans un domaine technique qui est propre, sans danger, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de matière chimique, il n'y a pas de matière polluante. Donc on est dans quelque chose qui est tout à fait propre et qui est voilà. Alors on n'est pas dans le luxe, hein. Bien sûr on n'est pas dans le luxe, mais on est quand même dans ce qu'il y a de mieux.
C'est un peu réducteur les femmes dans le luxe. Non, mais c'est pas.
Non, je parlais des hommes. Excusez-moi.
Est-ce que vous n'êtes pas d'accord?
Non, mais je parlais des hommes là-dessus. On n'est pas dans Germinal. Voilà ce que je voulais dire.
Pour rebondir là-dessus,
elles sont dures.
Dernière, je faisais encore des classes de seconde. Donc où là j'avais des filles, j'avais des jeunes. Des 15 ans. Et pour travailler sur leur orientation, même quand j'avais des classes majoritairement de filles, dès qu'on parlait du domaine technique, « Ah non, mais c'est pas pour nous. »
En fait, c'est carrément intégré dans la tête dès le départ, quoi.
Oui. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord là-dessus.
Le poids de la société quand tu nous tiens. Mais malgré tout, les choses changent. Chez Systec, 49% de femmes, j'ai entendu. Donc, c'est qu'à un moment donné...
Peut-être que ça va résonner.
Et en même temps, on n'a pas besoin de quotas pour faire avancer. Hein?
Oui.
Moi, j'aimerais savoir, dans ces études-là, j'ai entendu dans le film que c'était pratico-pratique, c'était une pédagogie dite active, les mains dans le cambouis. Que c'était aussi beaucoup en mode projet avec les voitures, etc. Donc concrètement, s'il y avait une journée type, c'est quoi ?
La journée type, je dirais qu'en classe entière, ils auront quoi ? 2-3 heures de cours en classe entière, ce que j'ai envie de dire face au tableau. Et après, le reste de la journée, c'est vraiment par activité, par deux. Avec des montages, on propose des projets, on les met à réfléchir sur une situation où des fois on leur fait ça ne marche pas, essayez de trouver, proposez-moi une méthode pour trouver la panne, et puis après allez-y, dessoudez-moi le composant et puis on va changer et on va voir si ça fonctionne. Donc c'est toujours essayer, les quelques heures que je passe en théorie, c'est après essayer de qu'ils voient le fonctionnement théorique dans la pratique directement, avec un appareil de mesure et qu'ils disent « Ah oui, tiens, voilà, j'ai tel signal en entrée, je n'ai pas le bon signal en sortie, donc l'erreur, elle est là. »
Par contre, moi, quand je vois vos tableaux blancs, avec plein de hiéroglyphes, ça veut dire quoi ? C'est des maths,
c'est du langage mathématique.
Il y a un petit peu de maths, mais c'est surtout aussi des symboles de composants électroniques.
Voilà, c'est tout simple. C'est un langage particulier.
Voilà, chaque composant est dessiné avec son propre symbole. C'est un petit peu comme le code de la route. Mmh. Un croisement est dessiné avec un symbole.
Tout à fait.
Et donc nous...
C'est aussi simple que le code de la roue, quoiqu'il est compliqué, le code de la roue.
Oui, il y a juste quelques symboles supplémentaires, mais autrement c'est aussi simple.
Il y a un alphabet, il y a un dictionnaire.
Non, c'est juste par l'expérience, chaque composant a son symbole.
Bon, maintenant, mais de toute façon, à force de pratiquer, tu sais.
C'est cette notion de... Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur. Moi, au départ, quand on a commencé le tournage, je me suis dit... Mais moi, par exemple, mon cas personnel, moi, je n'étais pas bon en maths quand j'étais jeune. Ce n'était pas un truc pour moi. Est-ce que j'étais nul en maths ? Et en fait, c'est ça que moi, j'ai essayé de montrer. C'est que même si tu es nul en maths en troisième, en fait, tu vas d'un seul coup appliquer des choses et tu vas comprendre que ça sert à quelque chose de très précis. Et donc, c'est plus juste dans l'air, c'est plus juste des formules qu'il faut apprendre par cœur. C'est une application sur le terrain. Et on est d'accord, hein ? Tu me dis si je dis des bêtises.
Mais donc il faut
pas avoir peur de se lancer là-dedans. Et je rebondis sur ce que tu as dit. En effet, ce tableau, moi, j'ai hésité à le mettre à l'image parce que ce tableau, il fait peur. Ce tableau, il est plein de formules incompréhensibles. Et on se dit, arrête, moi, j'ai 15 ans, je suis pas très bon au collège, je vais jamais y arriver, je vais me planter.
Et donc, Sauf que c'est le code de la route.
Sauf que c'est le code de la route. Et ce code de la route, on va l'appliquer à des choses très concrètes. Et d'un seul coup, il va encore une fois, avoir du sens.
Et c'est ça qui est super important. Dernière question. Le BTS ou le bac au ciel, c'est tout récent et c'est nouveau sur la région. Comment on est professeur d'électronique et comment on arrête la filière, on remet la filière, qu'est-ce qu'on fait entre deux ?
Entre deux, j'ai une formation d'électronicien, donc j'ai toujours été professeur d'électronique. Avant, je m'occupais du BTS électronique à Dreux. Puis après, quand le BTS électronique a fermé, puisque justement c'était les époques où l'électronique, On ne réparait plus, on changeait, tout venait de Chine.
Tout était délocalisé, voilà. Super.
Donc la filière a fermé, donc je suis devenu moi professeur de STI2D sur Chartres.
Alors, STI2D,
c'est sciences techniques de l'industrie. Donc je faisais un petit peu de numérique, un petit peu d'architecture, un petit peu de mécanique, on va dire, pour résumer. Et donc après, quand le BTS a rouvert à Anche, on m'a demandé si je voulais bien venir m'en charger, puisque des électroniciens dans la région, j'avais pas tant de concurrents.
Et alors, question dernière, peut-être. En plus, il y a un joli coucher de soleil là. L'IA dans tout ça?
Ah, bonne question. Alors, l'IA, on est rien qu'entre collègues, on n'est pas toujours d'accord sur la manière d'utiliser. Moi, j'ai un collègue qui est complètement contre. Moi, j'ai une approche davantage où on vit avec, donc on va essayer de l'utiliser. Maintenant, c'est ce que j'essaie, c'est qu'il l'utilise à bon escient, par petites doses et en ayant un esprit critique de toute façon, puisque à chaque fois qu'ils vont l'utiliser, ils vont me faire un code. Je suis tranquille, je peux le laisser, je sais qu'il ne va pas fonctionner. Pour l'instant, l'IA qui me sort des codes à 100%, je ne l'ai pas. Donc après, c'est par contre qu'ils fassent par petites tâches, petites pointes, et puis qu'ils sachent analyser ce que l'IA leur propose pour dire c'est logique ou c'est pas logique.
Alors nous, on est en train de le déployer, l'IA, et effectivement, on confirme ce que tu dis, difficile d'avoir du 100%. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'on a du, en termes de codage, on a du 90 ou du 95% de manière très rapide, avec des gains de temps et surtout, en fait, sans rien faire. Donc, on sent qu'il y a vraiment une très bonne opportunité au niveau du codage, en fait, de l'IA. Et on sent que ça va quand même être très intéressant, même si on demande à ce que ce soit toujours quelqu'un qui maîtrise électronique, le codage, R&D, et qui utilise en fait cette IA en la pilotant. Après, dans notre entreprise, il y a plein de fonctions qui peuvent utiliser l'IA et qui, de toute façon, qui vont révolutionner toutes ces entreprises. Le train est en train de passer, il faut vraiment monter dans le train, sinon on sera dépassé dans les 10 ou 20 ans. Alors, ce qui est super intéressant dans ces entreprises électroniques, c'est qu'en général, elles sont branchées soft et elles sont branchées IA, donc elles vont prendre de l'avance par rapport aux autres entreprises en fait, de l'écosystème industriel.
Et surtout que du coup, dans ce dispositif, je rebondis sur l'IA parce qu'il y a la partie cybersécurité et qu'effectivement, l'IA, on peut tout à fait l'utiliser et optimiser. Moi, je pense qu'il faut apprendre à utiliser l'IA. Mais qu'à un moment donné, il y a des limites, l'esprit critique, c'est important. Et il y a aussi la sécurité. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout mettre, et surtout sur des. Nous, vous avez des dispositifs chez Systech hyper confidentiels, et on ne peut pas tout mettre sur l'IA, et il y a des gens qui travaillent aussi sur ça, d'intégrer.
En fait, ce qu'on essaye de faire, là, c'est de cloisonner des agents IA en fait, chez nous, qui sont dans des départements de l'entreprise en fait, bien définis. Avec un périmètre aussi qui est autorisé et d'autres périmètres qui ne sont pas autorisés et d'absolument interdire l'IA d'aller à l'extérieur de l'entreprise en fait pour l'instant.
Et donc du coup, la filière électronique à Joséphine Baker avec M. Davous, c'est un temps d'avance. Oui, l'IA avec parcimonie, mais
voilà, tout à fait.
Du coup, c'est pas une filière asie.
Non, parce que l'IA, on est obligé de vivre avec. Donc, il l'utilise. Maintenant, il faut réussir justement à ce qu'il l'utilise. Je sais qu'il l'utilise de la manière la plus... qu'ils comprennent par eux-mêmes comment l'utiliser et le faire par petits blocs, par petits bouts. Et ce n'est pas la peine de demander à l'IA de faire un projet de A à Z.
C'est les fondamentaux.
Voilà, il faut pouvoir trouver les erreurs. Puisque une IA ne va nous sortir, même si le programme est bon à 95%, étant donné que ce n'est pas eux qui ont fait le code, ils ne le maîtrisent pas. Et trouver une erreur dans un code qu'on n'a pas fait soi-même, ça, c'est pas facile.
En tout cas, merci pour ce retour d'expérience, de témoignage. Et moi, alors là, j'ai appris du truc ce soir, parce que moi, c'est hiéroglyphe sur le tableau, c'était panique à bord. Donc, je sais que c'est un code de la route et que si je décide de vous prendre un ou deux symboles, je devrais y arriver.
Au fur et à mesure, oui. Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup.